à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Xavier Patier. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Xavier Patier, vous avez un parcours, un peu hors norme, parce que quand on regarde votre CV, on ne sait pas trop par où le prendre. Alors, si vous le permettez, je vais, pour vous présenter, parler un peu de votre filiation. Vous êtes d'abord issu d'une famille bien connue à Brive, une famille briviste. Vous êtes le fils d'un Bernard Patier, qui a fondé notamment, parmi beaucoup de choses, mais un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et qui a d'ailleurs une rue qui porte son nom, donc votre nom, à Brive. Donc vous êtes vraiment implanté là. Mais il n'y a pas que ça, vous êtes le petit-fils d'Edmond Michelet. Edmond Michelet, grand résistant, compagnon de la Libération, et ministre du général de Gaulle au début des années 60. Et puis, dans la famille, vous avez encore un tas de personnes qui se sont illustrées, notamment un cousin en ce moment qui s'appelle Claude Michelet, qui est écrivain. Donc, vous êtes né dans un milieu, on peut dire, d'intellectuel et de gaulliste. Est-ce que je me trompe ?
Gaulliste, oui. Intellectuel, ça dépend des cas de figure.
Ben, intellectuel, vous l'êtes quand même un peu, parce que vous êtes écrivain et vous avez écrit une trentaine d'ouvrages, dont à peu près la moitié d'essais et l'autre moitié de romans. Vous avez écrit une pièce de théâtre, donc on peut dire que vous êtes écrivain. Alors, tous les écrivains ne sont pas des intellectuels, mais je vous classerai, vu le nombre d'essais, dans la catégorie des intellectuels, si vous le permettez. Bon, mais vous n'êtes pas que ça. Je dis, votre CV est complexe parce que vous êtes aussi haut fonctionnaire. Haut fonctionnaire, puisque vous avez fait un parcours assez classique pour être haut fonctionnaire, Sciences Po Paris, l'ENA, Cour des comptes, et vous avez eu beaucoup de fonctions dans la haute fonction publique, mais notamment, vous avez fait du cabinet, comme beaucoup d'énarques, et vous avez été au cabinet de Jacques Chirac, je crois, pendant un certain nombre d'années, et sans doute un certain nombre d'autres ministres. Et donc c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, parce que je voudrais qu'on aborde ensemble une question un peu politique, mais vous avez le recul pour en parler justement avec pondération et avec une certaine densité. C'est la question qui taraude un peu sur l'évolution de notre 5e République. Hein, le général de Gaulle a quand même créé, et vos parents et ancêtres étaient dans cette mouvance qui ont voulu créer des institutions stables, et on peut dire qu'ils y sont arrivés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la 5e République est en train d'être mise en question. Le Premier ministre, M. Bayrou, parle d'introduire de la proportionnelle, donc c'est une autre logique. Ma première question, c'est ça. Comment voyez-vous cette évolution, vous qui l'avez suivie depuis longtemps et de près ?
Ben, je crois que comme beaucoup d'entre nous, je suis un peu consterné. C'est-à-dire que la Ve République, pour bien la comprendre, il faut savoir à quoi elle répondait. Elle répondait à la maladie chronique des 3e et 4e Républiques, qui ont vécu des instabilités ministérielles, des crises à répétition, et qui sont toujours immanquablement terminées en catastrophe. Et en 58, le projet gaulliste, c'était de dire on veut en finir avec cette espèce de malédiction de la stabilité ministérielle terminée en catastrophe. Et les institutions, elles étaient censées garantir cela, notamment avec ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, le 49-3 qui n'est pas un péché, mais qui est un moyen de gouverner sans majorité au Parlement absolue. Et simplement, Charles de Gaulle avait dit dès le début, et Michel Debray avec lui d'ailleurs, les institutions, c'est un texte et puis c'est un esprit. Et ce qu'on voit en grandeur réelle aujourd'hui, c'est que sans avoir bousculé les textes de la Constitution, bien qu'on l'ait un peu amoché depuis une trentaine d'années, mais sans bousculer le texte, on a réussi à casser l'esprit des institutions. Alors on pourrait évidemment gloser sur qui est responsable de quoi, mais on a un garant des institutions qui est le président de la République. Et à partir du moment où le président de la République se livre à un jeu de parti, il est logique que l'ensemble de l'édifice soit fragilisé. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et donc, Beaucoup de gens disent qu'il faut passer à la 6e République, il faut arriver à trouver une issue. Non, il faut passer à la 5e. Il faut revenir à la 5e République que nous avons perdu de vue dans la pratique.
Mais est-ce que, alors vous, justement, qui avez été proche de Jacques Chirac, en corrézien, tous les deux, est un personnage que vous connaissez bien, c'est quand même lui qui nous a ramené le mandat du président de la République à 5 ans pour le caler sur celui de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était rétrospectivement une bonne idée ?
Alors maintenant, je crois qu'il est clair que c'était une mauvaise idée. J'étais pas à son cabinet, j'étais plus à son cabinet quand il a lancé cette idée qui n'était pas de lui. Il faut savoir que le projet de quinquennat, c'est Georges Pompidou qui avait voulu le faire par référendum, qui n'avait pas eu le temps à cause de sa maladie, et puis il était mort en 1974 avant d'avoir abouti, mais c'était un projet pompidolien, le faire un quinquennat. Pompidou disait d'ailleurs 7 ans c'est trop long, et Chirac a repris un peu l'argumentaire, 7 ans c'est trop long. Et l'intérêt qu'on voyait au quinquennat, c'était effectivement d'éviter le psychodrame de la cohabitation. Et le quinquennat, c'était une manière d'éviter, en tout cas de limiter le risque d'avoir deux majorités concomitantes, une majorité présidentielle, une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, en faisant coïncider à peu près la durée des mandats, donc...
Mais ça limitait ce risque.
Ça limitait le risque. Mais enfin, d'abord, ça ne l'éliminait pas complètement. Et ensuite, ça amenait beaucoup d'inconvénients. Moi, je me souviens, à l'époque où le projet est lancé, les premiers qui ont alerté là-dessus, et qui étaient des proches de Chirac, je me souviens, c'était des diplomates. Ils disent, vous n'imaginez pas ce que le septennat apporte. Parce que le président de la République française, ayant 7 ans, il est beaucoup plus audible, crédible. Et surtout, comme il a du temps, il est très vite le doyen. Et donc, souvent, dans les réunions multilatérales, la position française était aidée par le fait que le président avait 6 ans d'ancienneté, alors peut-être en avait 2. Et donc c'est un avantage comparatif qu'on a perdu, sur le plan international aussi.
Et normalement, le quinquennat calé sur l'Assemblée nationale évite la cohabitation, sauf que là, on peut quand même dire qu'entre M. Bayrou et le président Macron, il y a une cohabitation.
Complètement.
De fait. Donc, à votre avis, sur l'institution, la position de Macron est-elle la même que celle de Bayrou ? Moi, j'avais cru comprendre que Macron était opposé à la proportionnelle. Bayrou, ça semble être son fonds de commerce.
Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que François Bayrou, depuis l'origine des temps, c'est-à-dire depuis fort longtemps, hein, parce qu'il est dans le circuit depuis des décennies, a toujours été un partisan de l'élection proportionnelle, qui n'est pas un sujet constitutionnel, hein, ça relève pas de la Constitution, le mode de suffrage, parce qu'il considérait, c'est d'ailleurs un point de vue sur lequel il n'a pas évolué, que à défaut de représenter fidèlement les rapports de force à l'Assemblée nationale, on allait rendre les clés à la rue, parce que les gens ne se reconnaîtraient plus dans l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ? D'ailleurs, le général de Gaulle lui-même, mais ça c'est un sujet beaucoup moins connu, dans les années 50, à un moment, au moment du RPF, a plaidé pour la proportionnelle. Le grand adversaire de la proportionnelle, qui considérait qu'elle était fauteur d'instabilité, c'était Michel Debré. Et c'est lui qui a convaincu le général de Gaulle de dire, pour que ça marche, il faut une majorité stable, et donc il faut que les élections législatives débouchent sur une majorité absolue à l'Assemblée, et qu'on n'y arrivera jamais avec la proportionnelle. Ça, c'est Michel Debré. De Gaulle l'a suivi. Mais il est certain qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une très grande majorité des Français qui veulent la proportionnelle. Il ne se rend pas compte que la proportionnelle, ça veut dire renoncer à la majorité. Renoncer à une majorité à l'Assemblée dans notre système, c'est-à-dire affaiblir l'État. Et affaiblir l'État dans notre monde, c'est effectivement disqualifier la France dans beaucoup de domaines.
Est-ce qu'elle n'est pas déjà un peu disqualifiée dans un certain nombre de champs ? J'ai l'impression que l'audience de la France a quand même une des choses qui a le plus périclité ces 30 dernières années.
Ah, c'est spectaculaire.
C'est spectaculaire.
Est-ce que c'est réversible ? Normalement, oui, mais en tout cas, on ne voit pas l'issue. Ce qui est clair, c'est que dans la France en particulier et l'Europe en général ne pèse plus. C'est tout à fait frappant. Et si on ne pèse plus, c'est parce que d'abord, on ne sait plus très bien ce qu'on a à dire. En plus, on n'a plus le poids politique et le poids économique qui nous permet d'être crédibles. Et puis, on n'a plus la crédibilité de la défense. La France a quand même l'avantage de l'arme de dissuasion. Mais le problème, c'est qu'elle est devenue illisible. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques mois, la France avait beaucoup de défauts, mais on savait qu'elle marchait d'un seul pas. Elle pouvait avoir des virages assez spectaculaires en 81, en 95. On changeait d'avis, on nationalisait, on privatisait. Mais enfin, on marchait d'un seul pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'expliquer où nous allons, nous. Et ça, ça accélère évidemment la marginalisation de la position française.
Et je pense que sur le plan diplomatique et militaire en même temps, l'Afrique aussi envoie une très mauvaise image de la France. C'est-à-dire qu'on se fait jeter dehors comme des malpropres un peu de l'Afrique, non ?
On est une période de désamour.
Ouais.
C'est-à-dire que la France et l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne, avaient des relations assez affectives, qui ont d'ailleurs été extraordinairement utiles à l'équilibre mondial. C'est-à-dire que c'est quand même la politique africaine de la France qui a permis d'éviter, dans les années 60-70, l'Afrique de basculer du côté du pacte de Varsovie. C'est-à-dire que l'Afrique est restée, les dirigeants africains qui avaient des liens presque incestueux avec les dirigeants français sont restés dans le camp occidental. Ça, c'est l'acquis. Mais cette affection s'est traduite par une sensibilisation exacerbée et il est assez logique qu'on passe par une phase de désamour extrêmement affectif aussi. Actuellement, il y a un rejet très violent de la part des élites africaines vis-à-vis de la France qu'on peut expliquer par le fait qu'il y avait une véritable fusion des élites jusqu'à il y a encore pas si longtemps.
Ouais. Et l'instabilité politique actuelle en France ne permet peut-être pas facilement de rétablir justement des relations saines et équilibrées avec l'Afrique. Eh bien, Xavier Patier, merci pour tous ces éclairages, pour cette expérience qu'on sent à travers vos propos qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur l'évolution de nos institutions.